Bonjour à toutes et à tous. Nous allons continuer notre lecture, nous allons continuer à étudier sur le livre de 1 Pierre. Donc je vous prie de prendre le premier épître de Pierre, chapitre 1. Nous allons voir 4 versets dans ce chapitre, à partir du verset 13 jusqu'à le verset 16. 1 Pierre, chapitre 1, versets 13 à 16. C'est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit: vous serez saints, car je suis saint. Cette lettre a été écrite en l'an 64 après Jésus-Christ par l'apôtre Pierre aux Juifs croyants qui subissaient des persécutions pour leur foi. Elle s'adresse aux hommes et aux femmes à cause de leur foi en Jésus-Christ qui étaient devenus des étrangers au milieu d'une société païenne. Et quelqu'un a dit ainsi: plus que tout autre, cette lettre reflète de manière immédiate l'esprit de l'Église primitive. C'est comme si on ouvrait le toit de l'Église, on peut regarder comment ça fonctionnait, comment c'était cette Église. Il est intéressant de noter que cette lettre est écrite par le disciple qui avait été accusé d'avoir abandonné Jésus et qui est abandonné Jésus face à la persécution. Pierre adresse cet épître aux pèlerins dans un monde de plus en plus hostile aux chrétiens. Ces croyants commencent à souffrir à cause de leur position pour Christ. Et Pierre utilise cette lettre pour leur donner conseil et réconfort en soulignant la réalité de leur espérance vivante dans le Seigneur. Si la vie d'un chrétien est fermement enracinée en Christ et en sa parole, il sentirait très vite la chaleur de ce monde contre lui, qu'importe le temps où il vit. Aller contre le courant n'est pas une chose facile et beaucoup de ceux qui font partie du corps de Christ seraient témoins de ce fait. Ainsi, tout chrétien qui lit cet épître de Pierre, c'est bien que c'est la parole de Dieu pour lui aujourd'hui. L'Épître présente Christ comme l'exemple et l'espérance du croyant dans le temps de souffrance dans un monde spirituellement hostile. Et quelqu'un a dit ainsi: elle est un microcosme de la foi et des devoirs chrétiens. Elle est un microcosme de la foi et des devoirs chrétiens. Christ est à la base de notre espérance vivante et de l'héritage du chrétien. Nous avons vu dernièrement dans le verset 3 et 4 de ce chapitre, et la relation d'amour que nous avons avec lui par la foi est une source de joie inexprimable. Le verset 8, sa souffrance et sa mort procurent la rédemption à tous ceux qui font confiance. Nés de nouveau dans une espérance vivante, ils doivent imiter le saint qui les a appelés. Depuis que nous avons commencé à étudier cette première lettre de Pierre, nous avons vu la grandeur de ce salut. Et maintenant, dans le passage que nous avons devant nous, nous allons voir la sanctification du croyant. Plus précisément, comment vivre ce salut reçu au milieu des païens. J'ai intitulé ce message comme l'appel à la sainteté, principalement à cause du verset 16, vous serez saints car je suis saint. Mais en vérité, le sujet de la sainteté que l'apôtre Pierre décrit dans cet épître s'étend jusqu'au verset 10 du chapitre 2. Pierre demande à ses lecteurs d'être préparés pour une vie sainte. Le prix à payer a cet effet, la purification et la pratique de la sainteté. Et maintenant, nous allons voir un peu, on peut décortiquer un peu le verset 13. Il commence ainsi, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. C'est pourquoi. Le verset 13 de ce passage commence avec ces mots, c'est pourquoi. C'est pourquoi est une conjonction qui connecte deux pensées. Ce qui nous explique que c'est la continuation d'une pensée et celle du sujet traité dans le verset précédent, le verset 13. Dans le texte précédent, de verset 3 jusqu'à verset 12, l'apôtre Pierre parle de cette promesse d'un héritage impérissable pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, que l'épreuve de leur foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, qu'ils obtiendront le salut de leur âme pour prix de leur foi à cause de ce qui a été révélé aux prophètes, à cause de l'Évangile, par l'Esprit-Saint envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Et jusqu'à maintenant, nous avons vu la semaine dernière. Et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. L'apôtre Pierre utilise beaucoup d'allusions de l'Ancien Testament. Et j'en ai compté au moins 29 dans le premier épître. Vous savez, le Nouveau Testament est notre commentaire divinement inspiré sur l'Ancien Testament. Lors de l'étude d'un passage, il est souvent utile de voir comment d'autres auteurs bibliques l'ont compris, ce passage. Pourquoi est-ce que je dis cela? Bien que notre Bible soit un livre très ancien, il est toujours d'actualité et nous devrions nous rappeler qu'elle était écrite il y a milliers d'années dans un contexte socioculturel différent du nôtre. Et bien sûr, nous avons parfois quelques difficultés à comprendre son langage. Personnellement, je n'ai pas eu de problème pour comprendre cela, car c'est la coutume dans la culture de mes origines. Dans la langue tamoule, nous avons l'équivalent pour saigner les reins. Et certainement dans les autres langues, vous avez des équivalents pour cette phrase, saigner les reins. Nous devrions comprendre que les habitants du pays de l'Est portaient les longues robes. Et là où ils voulaient marcher vite ou avec un minimum d'obstacles, ils attachaient la robe autour de leur taille avec une ceinture. Pour comprendre dans le contexte biblique, nous allons voir dans le livre d'Exode, chapitre 12, verset 11. Je vais lire pour vous. Exode, chapitre 12, verset 11. Vous savez, quand les enfants d'Israël étaient prêts à quitter l'Égypte, et quand ils devraient manger le Pâques, l'agneau de Pâques, Exode chapitre 12, verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins saints, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Donc, ils devraient être habillés d'une façon qu'ils devraient quitter le pays aussi vite possible. Et encore dans un autre endroit, je vais lire ce passage. 1 roi 18:46, et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jézréel. Donc, quand Élie, il devrait courir devant Akab. Akab, il était sur le char, dans un char. Et quand il devrait courir, il ne peut pas courir avec une longue robe, la façon dont il était habillé. Donc, il devrait prendre ses robes et saigner les reins. Il court devant le roi. Israël était ainsi parce que le peuple d'Israël a été esclave pendant plus de 400 ans en Égypte. Le Seigneur voulait les délivrer de leur esclavage. Et la nuit de Pâques, il leur a dit de se préparer à manger l'agneau de Pâques et de quitter cet endroit pour la terre promise. Israël était ainsi parce que demain était le jour où leur esclavage prendrait fin. Tous les autres plans, buts, objectifs, espoirs de leur vie, ou de succès, ou même de confort en Égypte, ont été oubliés. Ce soir, la puissance de leur Dieu serait révélée sur leur maître, et demain, ils seraient libres. Nous trouvons un parallèle quand Pierre utilise cette phrase, « Saignez les reins de votre entendement ». Les chrétiens qui quittent le monde, qui veulent suivre le Seigneur, qui veut marcher dans la sainteté, qui veut partir avec le Seigneur, Pierre, il dit, « Saignez les reins de votre entendement ». Dans notre texte même, si l'apôtre Pierre fait une allusion aux enfants d'Israël, quand ils se préparaient à quitter l'Égypte, le pays de leur long esclavage, Pierre demande aux chrétiens de la Nouvelle Alliance d'être prêts pour cette nouvelle vie en Christ. Aucune course ne peut être gagnée sans être préparée mentalement. Aucun but ne pouvait être atteint sans se préparer à franchir les obstacles. Et c'est pourquoi Pierre appelle les chrétiens à se préparer pour la prochaine étape de leur vie. L'apôtre Paul, il dit dans son épître à Philippiens, « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je ferai une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Philippiens 3, 14 et 15. « Saignez les reins de votre entendement. » Remarquez que Pierre ne parle pas d'un vêtement, il fait référence au rein de nos esprits. Vous voyez, Pierre nous dit, si nous ne le faisons pas, nous devons faire face aux détails non réglés qui fait référence au rein de nos esprits. Nous devons faire face aux détails non réglés qui existent dans nos esprits et dans nos émotions. Nous devons corriger certaines pensées ou certaines parties de notre pensée que nous savons être erronées. Quand Pierre dit « Saignez les reins de votre entendement », qu'est-ce que ça veut dire? Nous devrions maîtriser nos émotions et nous devrions maîtriser notre pensée que nous savons que sont erronées parfois. Nous devons saisir et enlever toute chose indéterminée dans notre cœur. Nous avons pris la décision pour suivre le Seigneur, mais il y a toujours encore des choses, qui ne sont pas encore décidées d'ôter, d'enlever et supprimer ces choses par l'autorité de la parole de Dieu. Nous choisissons de permettre aux choses d'exister dans notre vie, dans nos vies, qui entraveront nos pas et nous ralentiraient dans notre marche avec Dieu. On décide de suivre le Seigneur, mais on garde les choses encore dans nos cœurs, dans notre esprit, qui n'est pas déterminé, on n'a pas décidé d'enlever ou de laisser. Et c'est pourquoi Pierre, l'apôtre Pierre, dit, saignez les reins de votre entendement. Si nous voulons la victoire dans notre vie spirituelle et vraiment marcher avec Dieu, alors nous devons commencer à faire face à cela. Et en d'autres termes, nous devons chercher à faire face à toutes les choses indécises de notre pensée qui n'ont pas encore été soumises à la parole de Dieu ou céder à l'autorité de l'Esprit-Saint. Si nous permettons délibérément une mauvaise pensée et une mauvaise croyance de continuer dans notre vie, nous faisons le même genre d'erreur que le coureur fait qui permet délibérément à son vêtement de prendre et se faire prendre dans ses jambes. Maintenant, on devrait poser la question, y a-t-il des choses indécises que vous devez traiter dans votre vie en ce moment? S'il y en a, je suis certain que vous savez déjà quels sont ces domaines. L'Esprit-Saint essaie de traiter avec vous ces domaines depuis longtemps, mais avez-vous écouté? Si vous continuez à ignorer sa voix, vous payerez le prix de l'échec, de ne jamais réaliser une vie chrétienne victorieuse. Regardons ensemble ce que l'apôtre Paul a nous dire par rapport à cela. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattrons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renverserons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobre. Le verset 13 de 1 Pierre chapitre 1. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobre. Plusieurs endroits du Nouveau Testament parlent d'être sobre d'esprit. L'apôtre Pierre utilise dans deux autres endroits de cet épître. Je vais lire de 1 Pierre 4, 17. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Et encore à 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Donc, vous voyez, dans les deux endroits, dans la même épître, l'apôtre Pierre, il utilise ce mot, cette exhortation, soyez sobre. Et encore, l'apôtre Paul exhorte Timothée, mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. 2 Timothée 4, 5. Le terme sobre signifie littéralement exempt d'influence enivrante. Nous parlons d'une personne qui n'est pas ivre d'alcool ou de drogue élevée comme étant sobre. Son esprit n'est pas sous le contrôle d'une force extérieure dangereuse. Plus généralement, le fait d'être sobre signifie que nous ne laisserons pas être captivés par tout type d'influence qui nous éloignerait de jugement saint. L'individu sobre n'est pas intoxiqué au sens figuré et donc calme sous la pression avec la maîtrise de soi dans tous les domaines et rationnels. Le plus souvent, nous voyons le contraire de la sobriété affichée dans notre monde. La bêtise, les choix irresponsables, l'expérimentation stupide de substances ou de comportements nocifs et plaisanteries grossières sont en opposition directe avec ce commandement, être sobre d'esprit. Paul dit dans sa lettre aux Éphésiens 5, versets 3 à 4, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Je pense qu'on n'a pas besoin d'explication. Paul il décrit bien ce qui est contraire, des choses contraires à la d'être sobre. Il continue d'énumérer certains comportements qui entrent en conflit avec la vie sobre d'esprit dans le verset qui suit. Donc, je continue à lire de Éphésiens, chapitre 5. On va voir le verset 5 à 7. Éphésiens 5, le verset 5 jusqu'à 7. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par le vain discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Donc la parole est claire par rapport à comment un chrétien devrait se conduire dans ce monde. L'appel est pour être une sobriété d'esprit, être sobre. Je voudrais vous rappeler ici que la vie dans ce monde fait tout pour nous conduire à vivre nos vies dans l'autre sens. Maintenant, avec le confinement et tout, je pense que c'est un peu ralenti, mais le cœur de l'homme, elle n'a pas changé. Ça reste. Et tout le monde attend qu'on déconfine pour aller vivre leur vie comme il veut. Notre société, les médias, les réseaux sociaux et la façon dont nous choisirions de nous divertir dans nos loisirs, eh bien, ça pourrait être même le sport. Ces choses peuvent sembler tout à fait innocentes, mais pourraient doper nos esprits. Et on n'est pas conscient. Et combien de temps nous dépensons dans les choses pareilles? Est-ce que nous sommes sobres d'esprit ou en tant qu'enfants de Dieu, est-ce que nous laissons d'être dopés par ces choses? Cependant, être sobre ne signifie pas du tout vivre une vie ennuyante et sans joie. En fait, les chrétiens sobres d'esprit doivent être continuellement remplis de la joie de l'Esprit Saint. On trouve en Galates, en Actes et en Romains. Les chrétiens sobres d'esprit doivent être continuellement remplis de la joie de leur salut. La joie, être joyeux, c'est un commandement. On trouve en Philippiens 4, 4. L'élimination de la folie, de la frivolité et de la bêtise abrutissante de nos vies nous permet de nous concentrer sur ce qui est vrai et éternel. L'ordre de Jésus à ses disciples endormis suggère la nécessité d'une sobriété. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais pourtant, nous ne voyons pas que les disciples étaient en train de partir dans les quatre directions pour faire des choses. Ils étaient en train de suivre Jésus-Christ. Mais pourtant, Jésus, il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Mais combien c'est important pour nous qui vivons dans ce monde qui vit dans le péché. Regardons le verset 13 de 1 Pierre, chapitre 1. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Je pense que vous vous demandez peut-être que lorsque le titre de message est l'appel à la sainteté, pourquoi devrions-nous nous attarder sur ces versets? Eh bien, permettez-moi de vous dire que c'est vraiment nécessaire parce que nous sommes sur le chemin de la sainteté. Ce sont les choses qui nous aident à vivre une vie sainte pour Dieu. Et le chemin vers la sainteté est souvent long et difficile à saisir. Mais je vous promets que j'espère finir à l'heure. Et dans le verset 13, nous lisons dans la deuxième partie, « Et ayez une entière espérance dans la grâce que vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » L'idée même de courir dans une course est d'atteindre l'objectif. Et votre détermination à atteindre la victoire serait certainement façonnée dans la façon dont vous courez la course. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit par rapport à cela. On va lire de 1 Corinthiens 9, le verset 24 à 27. Si nous marchons avec le Seigneur, nous devrions savoir quel est le but. Et si nous faisons une course, le but c'est arriver pour remporter la victoire. Et ici, l'apôtre Paul il dit aux Corinthiens, chapitre 9, verset 24, « Ne savez-vous pas ce que courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Mais donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Et nous qui disons que nous suivons le Seigneur, et combien nous avons besoin d'assujettir notre corps, combien nous avons besoin de nous traiter durement pour arriver au but. Je vous propose un autre passage, Philippiens 3, on va lire à partir de verset 8, Philippiens 3, 8. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ, d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'étais saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voyez ce que l'apôtre Paul il dit, la vocation, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Dans cet épître, on voit souvent la vocation. C'est Dieu qui nous a appelés pour marcher avec lui, pour vivre pour lui. C'est Dieu qui nous a appelés. Donc, c'est notre vocation céleste. Mais est-ce que nous sommes en train de marcher dignement de cette vocation céleste? La plupart des gens de ce monde ont cette philosophie. Mangez, buvez et soyez joyeux, car demain, nous mourrons. Mais qu'en est-il de nous, chrétiens? Avez-vous déjà pensé à notre façon de vivre? Vivons-nous de la même façon que les gens vivent dans ce monde, en train d'accumuler des biens et des propriétés comme si que Jésus-Christ n'allait pas venir? Vous savez, ici, tout le monde est beau, mais quand nous allons partir dans le monde demain, même cet après-midi, les choses, nous serons influencés énormément par le monde qui nous entoure. Ces gens-là, ils vivent ainsi. Les gens du monde, ils vivent ainsi. Ils ne pensent pas que le Seigneur il va venir. Mais nous, les enfants de Dieu, nous avons une conviction que Jésus, il vient bientôt. Vous souvenez-vous de la parabole que Jésus a racontée dans Luc 12 au sujet de l'homme fou qui était riche? Toute notre espérance est dans le Seigneur Jésus qui arrive bientôt. Notez ce que l'apôtre Paul dit de sa vie et sa souffrance pour la cause de Christ. Je vais lire de 1 Corinthiens 15, 31-32. Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire. Donc, vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si c'est dans les vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si le mort ne ressuscite pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Et pourquoi l'apôtre Paul devrait subir toutes ces persécutions et des souffrances? Je pense que ses contemporains, ils avaient cette philosophie de vie. Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Et dit, pourquoi l'apôtre Paul, il a subi tout ce qu'il a subi? Parce qu'il croyait dans la résurrection de la mort. Parce que Christ, il est ressuscité. Il sait pertinemment que Christ, il revient. Cette espérance glorieuse qu'il avait dans le Seigneur. Je pense que la façon dont les chrétiens vivent dans ce monde transmet le message aux gens qui nous regardent. Si nous croyons vraiment que Jésus-Christ vient bientôt, comme nous proclamons, et est-ce que vos amis, vos voisins, ils savent que vous croyez vraiment que Jésus-Christ vient bientôt? Notre vie est-elle digne de l'évangile que nous prêchons? Maintenant, nous allons regarder le verset 14 de 1 Pierre, chapitre 1, verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mettre notre espérance sur la grâce de Dieu exige l'attitude ou la posture d'enfant obéissant. La phrase littérale est « enfant de l'obéissance », désignant l'obéissance comme la qualité déterminante, la caractéristique essentielle d'un enfant de Dieu. Et comment devenions-nous des enfants de l'obéissance? Si nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes aussi des enfants de l'obéissance à cause de l'obéissance de Jésus qui l'a amené jusqu'à la croix. Regardons en Romains, Épître aux Romains, chapitre 5, à partir de verset 18. Romains chapitre 5, on va lire à partir de verset 18 jusqu'à 21. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, Adam, il a désobéi Dieu, et par Adam, nous sommes tous devenus les enfants de désobéissance, les enfants de la rébellion. Nous avons devenu les menteurs, mais par l'obéissance d'un seul homme, le Seigneur Jésus-Christ, qui a obéi, qui a soumis jusqu'à la mort de la croix, et nous sommes héritiers de cette œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Ainsi, tous les enfants de Dieu qui sont nés par l'obéissance de Jésus, le Fils de Dieu, ont été régénérés pour devenir les enfants de l'obéissance. Lors de notre nouvelle naissance en Christ, nous sommes devenus les enfants de l'obéissance. À l'origine, nous n'étions pas les enfants de l'obéissance. Nous étions les enfants de désobéissance. Donc, l'obéissance est la caractéristique essentielle d'un enfant de Dieu. Je ne sais pas combien nous sommes conscients de ce fait que, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes les enfants d'obéissance. Nous devrions obéir, pas aux hommes, mais à la parole de Dieu. Nous devrions obéir à la voix du Saint-Esprit. On ne peut pas être autrement. Les enfants de Dieu ne doivent pas se conformer à leur appétit et désir de leur préconversion. Ces désirs perdent leur attractivité au moment où l'on se tourne vers le Saint qui vous a appelé. Cette définition positive de l'obéissance met l'accent sur le motif de l'appel. Dieu qui est saint dans sa nature et dans son essence est celui qui convoque et réquisitionne tout le monde et tout à son service. L'accent sur le motif de l'appel de Dieu qui est saint dans sa nature et dans son essence, et celui qui convoque et réquisitionne tout le monde et tout à son service. Et l'apôtre Paul dit dans son épître aux Romains 12, le verset 1 et 2, je pense que tout le monde connaît ce passage par cœur. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et quand nous offrons nos corps comme le sacrifice vivant, nous devenions des enfants obéissants, cherchant la volonté de Dieu. Même avant que le Père il nous demande quelque chose, le Père il a écrit sa volonté dans sa parole. Même avant qu'il puisse nous demander ou que nous sachions l'obéir. Et ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. La norme et le motif de la sainteté chrétienne sont Dieu lui-même et sa sainteté. Comme celui qui vous a appelé saint, vous êtes aussi saint dans toute votre conduite. Parce qu'il est écrit, soyez saint, car je suis saint. En d'autres termes, tel un père, tels sont les enfants. Je pense que tous les parents, ils élèvent leurs enfants comme ils voudraient qu'ils soient, et souvent comme selon leurs convictions. Et si nous sommes les enfants de Dieu, est-ce que nous ne devrions pas ressembler à notre Père céleste? En vérité, les enfants de Dieu doivent être la réflexion de Dieu lui-même dans ce monde. Les enfants de Dieu devraient être la réflexion de Dieu lui-même dans ce monde. Vous savez ce que Jésus dit dans le sermon sur la montagne, Matthieu 5, 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Si le Seigneur n'est pas glorifié, nous devrions comprendre que c'est à cause de notre comportement ici. Et si notre comportement est tel que les enfants de Dieu, il faut savoir aussi que Dieu sera glorifié au ciel. Le verset 15 et 16, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints quand je suis saint. » Quand Israël a prêté à quitter l'Égypte, on leur a ordonné de purger leur maison de tous les levains. Les levains représentent souvent la pagation, la souillure de l'influence du péché, il est même dans l'air. Il y a quelques jours, je parlais avec quelqu'un de ma famille à New Delhi. Vous savez comment la situation est dans cette ville. Il y a la mort partout à cause de ce fameux virus COVID-19. La personne m'a dit que le virus est partout. Le virus est partout, même dans l'air. Une façon de dire, bien sûr. C'est ainsi avec le péché aussi. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ce virus, mais on ne voit pas le péché. Le virus non plus, hein, on ne voit pas avec l'œil nu. Mais on parle de ce virus, mais on ne parle jamais de le péché. Mais quand Dieu s'approchait, il devait être propre et saint comme lui-même est saint. Pour Dieu, la sainteté est plus importante que notre santé. Santé physique. La sainteté est plus importante que notre santé. Plus tard, quand Dieu s'approchait d'Israël dans le tabernacle, il leur a ordonné de vivre dans des vies distinctes des nations. mettant de côté les moralités sexuelles. Pourquoi? Lévitique 18:2, bien sûr, l'apôtre Pierre, il prend de Lévitique, hein, de l'Ancien Testament, quand Dieu l'a dit, vous serez saints, car je suis saint. Et ce peuple, il devrait être un peuple séparé, appelé, séparé, mis à part que les autres nations. Mais souvent, nous lisons dans le Pentateuque, hein, Dieu dit, vous ne ferez pas les choses qu'ils font. Et Dieu a bien sûr dit ce qu'il devrait dire, ce qu'il devrait faire, comment il devrait vivre, jusqu'aux détails très minutieux. Vous ne ferez pas des choses comme ils font. Vous n'adorerez pas leurs idoles, leurs dieux. Pierre nous appelle à une vie similaire dans le verset 14 à 16, que l'on nous enseigne le bien ou non. Il est si important de faire une distinction entre les parties de nous qui devraient être l'ancienne vie et ce que devrait être nous actuellement. Pierre dit que nous ne devrions pas être conformes aux passions de notre ancienne ignorance. Et dans le Épître aux Éphésiens, chapitre 2, nous voyons comment nous étions avant de notre conversion. Nous étions les enfants de ténèbres. Nous étions des ennemis de Dieu. Nous n'appartenons pas à la ville de Dieu. Nous étions hors du camp de Dieu. Mais Dieu a tout changé. Il nous a fait des enfants de lumière. Pierre dit que nous ne devrions pas être conformes aux passions de notre ancienne ignorance. J'aime la façon dont il dit cela parce que voici la réalité. Chacun de nous, nous avons l'habitude d'être ignorants. Certains d'entre nous le sont encore, de sorte que les envies de pouvoir, l'argent, la popularité, l'honneur, la connaissance, et le succès nous contrôle, comme font les autres. Nous étions ignorants, donc nous ne nous rendions pas compte que ces passions ne porteraient jamais leurs fruits. Nous contrôlerions, ces passions nous contrôleraient et nous détruiraient. Elles sont devenues notre espoir, notre confort, ce que nous avons rêvé et tant entendu. Je voudrais qu'on lise le titre, chapitre 3, épître de Paul au titre, à titre, chapitre 3. On va lire à partir des versets 3 à 7. Titre 3, versets 3 à 7. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que justifiés par la grâce, par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Non seulement ça a l'air d'être une vie misérable, mais c'est tout droit. C'était la vie de notre ancienne ignorance. Et Pierre dit, ne vous conformez pas à ces passions. Il nous donne une nouvelle marque à viser. Soyez saints dans toute votre conduite. Avons-nous cette image dans notre esprit? Chaque partie de notre vie doit être sainte, distincte et propre. La sainteté de Dieu motive notre sainteté. Considérez sa sainteté. Elle est parfaite, pure, puissante. Elle rayonne de vie, d'amour et de beauté. Nous voyons cela dans l'émerveillement de ce qu'il a fait. La belle création, la sagesse dans son plan soigneusement conçu pour sauver ce monde corrompu. La patience et l'amour sans fin. Sa volonté de porter notre péché et notre honte sur la croix. Il a une sainteté qui n'est pas simplement une pureté morale rigide, mais le pouvoir d'un lion et la pureté innocente d'un agneau qui transcende totalement notre obsession ignorante et égoïste des passions mondaines. C'est l'une des raisons pour lesquelles il nous a créés. Mais comment comparer la sainteté de Dieu avec nous? On peut comparer la sainteté par rapport à nous, entre les hommes. Mais notre sainteté vient de Dieu qui est pur et saint. C'est l'une des raisons pour lesquelles il nous a créés. Ce saint Dieu ne voit pas bon de simplement exister dans sa belle sainteté. Une partie de son caractère saint est le suivant. Il est prêt à tout pour enseigner et partager sa sainteté avec nous, comme notre Dieu est grand. Et il a partagé sa sainteté en notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Lui qui était saint, il est devenu péché pour nous. En conclusion, nous ne pouvons pas devenir les saints de Dieu alors que nous sommes esclaves de nos convoitises et de nos passions. Donc, soyons clairs, on ne peut pas devenir des saints de Dieu. On peut parler de la sanctification, on peut parler de la sainteté de Dieu, mais on peut même dire que je voudrais être saint comme Dieu le veut. Mais si nous gardons notre convoitise et de notre passion dans notre cœur, on ne peut pas rêver de devenir la sainteté de Dieu. Ne nous conformons pas à notre ancienne ignorance. Il ne nous donne pas ce que nous recherchons. Mettons nos yeux sur la puissance sainte et pure, l'amour et l'innocence de Dieu, et faisons tout ce que nous devons faire pour confesser et mettre cette vieille vie de côté. Mais nous ne devenons pas par notre propre volonté. On ne peut pas devenir saint de notre propre moyen. Nous n'avons rien en nous qui est bon. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons mis toute notre espérance sur la grâce de Dieu et non sur la colère pour nous amener à la révélation de Jésus-Christ. Il va enfin nous transformer en image de son Fils que nous nous efforçons depuis le début. Je lis quelques versets de 1 Jean 3, le premier 3 versets. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, ce qu'il ne l'a pas connu, bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et on peut aussi ajouter, nous sommes maintenant les enfants d'obéissance. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Avons-nous été souillés par le plaisir d'Égypte dans notre séjour? Sommes-nous distraits par les passions, la poursuite et la fête de Babylone? Le salut est plus proche de nous qu'il ne l'était en premier. Nous devons adopter l'état d'esprit de Pâques. Ce soir, l'ange de la mort vient pour l'Égypte. Ce soir, les Mèdes font une brèche dans le mur de la ville. Vous savez, dans Daniel chapitre 5, les Mèdes, il était autour de tout près de la ville pour capturer. Mais le roi, il était en train de faire la fête avec ses convives. Il était en train de souiller les ustensiles saints consacrés du temple de Jérusalem. Il était en train de souiller l'ustensile saint. Mais la même nuit, même pas une heure, quand la main de Dieu a écrit dans le mur, compté, pesé, et le roi a été tué. Ce soir, l'ennemi est jugé. Ils font tous des affaires, l'achat et la vente, se marier et boire de l'alcool comme demain viendra. Mais nous le savons mieux. Ôtez le vieux levain, la passion de notre ancienne ignorance, parce que le Dieu qui nous appelle est saint. Soyez sobre d'esprit, pensez à estimer ce salut précieux. Pensez à la vue d'ensemble d'histoire, comment Dieu l'a conduit son peuple. Concentrez-vous de la ligne d'arrivée. Mettez votre espérance pleinement sur la grâce qui nous sera apportée à la révélation de Jésus-Christ. Puissions-nous prier, Maranatha, Seigneur, viens. Soyons pleins d'espoir et saints dans notre exil parmi les nations. Nous sommes en exil comme Pierre parle de ces chrétiens qui étaient en exil à cause de leur foi. Et nous n'appartenons pas à ce monde. Nous sommes en exil. Nous allons partir bientôt avec le Seigneur quand il reviendra. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te glorifions, Père, car tu es saint. Seigneur, pas seulement tu es saint, Seigneur, tu voudrais que ton enfant, tes enfants, ils ont la même nature que comme toi. Seigneur, nous ne comprenons pas comment ça peut être fait, mais nous croyons dans ta parole. Seigneur, que nous croyons sur ta volonté. Seigneur, quand tu dis quelque chose, Seigneur, tu donnes le moyen pour faire. Seigneur, merci pour notre Seigneur Jésus-Christ qui était le saint, mais est devenu le péché à cause de notre désobéissance, à cause de nous. Seigneur, merci pour cette œuvre rédemptrice sur la croix. Il a payé la dette de nos péchés, Seigneur, pour nous rendre saints. Seigneur, merci parce que tu nous vois à travers de ton Fils Jésus-Christ qui est saint. Seigneur, merci parce que tu as accepté son sacrifice et tu nous as acceptés comme tes enfants, tes fils, tes filles d'adoption. Seigneur, quel amour que tu as démontré envers nous. Seigneur, aide-nous à répondre à ce grand amour et être tes serviteurs. Au nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, nous prions tout cela et pour toute ta seule gloire. Amen.